collègues que je remercie d'être parmi nous. Donc Pierre Damien comme est professeur à l'Université de Paris 1. Ses recherches portent sur la philosophie, l'esthétique, le design d'espace. Il a publié de très nombreux ouvrages dans le désordre, l'art au temps des appareils, les différents esthétiques, du commun, art et industrie. Et puis, je crois que c'est le dernier, hein, un très bel ouvrage qui, à mon avis, renouvelle la façon de penser la théorie du cinéma, qui s'intitule « Le cinéma avant, après ». Et il nous a fait le plaisir de venir parler d'Antonioni. Et je vais lui laisser la parole. Le titre de son intervention, c'est « L'urbanité comme ambiance formelle ».
Merci. Je vais, étant donné que je comprends qu'il faut respecter un certain timing, comme on dit, je vais commencer sans précaution rhétorique par trois remarques liminaires qui visent à situer à votre intention, disons, l'enjeu de mon propos. Alors la première chose que je vais dire, dont vous allez peut-être retrouver la raison à tel moment de mon exposé un peu plus tard, c'est que les grands moments de nos existences ne sont pas nécessairement des moments qui durent longtemps. C'est-à-dire que si on applique cette banale remarque, sur la longueur de mon existence, les grands moments de mon existence sont finalement très peu de choses. Si on applique ça à un film, on peut dire que pour quelques plans, pour quelques raccords, pour quelques petits moments au sens de la durée objective, un film peut valoir effectivement beaucoup. La deuxième remarque liminaire que je voudrais faire, c'est de dire que on ne soutient pas nécessairement le cinéma ou quoi que ce soit d'ailleurs, parce que moi je m'intéresse beaucoup évidemment aussi à ce qui vient, à ce qui nous vient avec, moi je dis les choses de la manière suivante, avec les poussées techniques d'une manière générale. Ce qui nous vient avec les poussées techniques sont toujours des poussées marquées par de la nouveauté par définition et qui poussent quelque chose dans les deux sens, au sens de la croissance d'une plante, mais aussi au sens de... pour que quelque chose advienne, il faut que quelque chose d'autre soit poussé, soit mis à l'écart. Donc la technique fait pousser des choses parmi nous, et je pense que nous avons besoin de soutenir ces poussées pour des tas de raisons que je n'ai pas le temps de développer ou de justifier cet après-midi. Et pour soutenir ce qui pousse, le cinéma a poussé parmi nous. Et pour le soutenir, il n'est pas forcément... La meilleure argumentation ne consiste pas nécessairement à montrer qu'il s'inscrit dans la grande culture. Mais ça peut aussi consister à montrer qu'il en fait pousser justement de la culture, ou qu'il en ouvre quelque chose de ce type-là. Et c'est sur ce point, au fond, que je vais peut-être essayer de soutenir quelques arguments. Alors, quant au cinéma, peut-être en général, quant au cinéma d'Antonioni en particulier. La troisième remarque liminaire que je voudrais faire, qui au fond va me faire entrer dans mon sujet, Roméo disait ce matin, je l'ai entendu en tout cas, que la ville avait été un sujet de la narration dans le néo-réalisme. Moi, je voudrais essayer de montrer que toute une urbanité, je vais revenir sur ce mot dans quelques secondes, toute une urbanité se découvre dans le cinéma, c'est-à-dire que toute une urbanité ne peut se recueillir que dans les formes qui sont celles du cinéma, et que seul le cinéma peut faire advenir ou faire pousser parmi nous. Les formes de cette urbanité ne sont pas nécessairement l'espace et le temps, classique, l'espace et le temps d'autrefois, mais une forme de spatio-temporalité, d'espace et de temps qui est spécifique, qui n'est pas phénoménologique, pour lâcher un grand mot des philosophes, ou qui n'est pas nécessairement incarné. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement en rapportant à une expérience qu'un corps humain peut faire, qu'on peut comprendre l'espace-temps que nous ouvre le cinéma et à mon avis particulièrement le cinéma d'Antonioni. Parmi d'autres, mais particulièrement ce cinéma. Il y a là, dans le fait que le cinéma fait advenir, découvre parmi nous, fait pousser parmi nous des formes d'espace et de temps, il y a là la base de toute une compréhension de poussées urbaines, autrement on ne comprendrait pas. Et je peux dire les choses autrement en empruntant un vocabulaire qui a sa place dans l'histoire, non pas de l'architecture peut-être, non pas du design peut-être, mais des théories de l'architecture et du design. Je peux dire que grâce au cinéma, par exemple, un certain nombre de poussées urbaines ont pu devenir organiques. Hein, c'est le mot sur lequel je reviendrai très rapidement si j'ai le temps tout à l'heure. Il y a un devenir organique d'un certain nombre de poussées urbaines qui, autrement, auraient poussé, ou poussent d'ailleurs parmi nous, mais de manière inorganique. Ça organise quelque chose pour nous, dans une certaine mesure, du cinéma comme celui d'Antonioni. Et ça ouvre, par conséquent, pour nous, un champ de compréhension à des poussées urbaines qu'autrement, probablement, on souffrirait, hein, qui serait en souffrance, mais que avec lesquels on n'arriverait pas à exister véritablement. Alors, ça c'était les remarques liminaires, ça fait déjà, cela dit, quelques minutes. Hein, donc après tout, ça peut être long l'introduction, et puis le développement court, on n'est pas obligé d'avoir toujours les mêmes structures rhétoriques. J'ai quand même entré un peu dans mon sujet. Je sais qu'on avait discuté avec José il y a quand même pas mal de mois de ça. Je pense que José préparait à ce moment-là l'actuelle journée d'études ou colloque. On avait discuté autour de cette notion, ce mot d'urbanité. Je voudrais dire en quelques mots ce qu'il signifie pour moi. Il y a quelques années, après avoir travaillé sur un programme de recherche que j'avais intitulé « Le temps des appareils », Je reviendrai là aussi dans quelques secondes sur la notion, la temporalité, le temps. J'avais pensé bon de mettre en œuvre un programme de séminaire que j'avais intitulé « Les formes de l'urbanité ». Alors sur ce mot-là, « urbanité », visait dans mon esprit un champ, une méthode de réflexion qui ne pouvait pas, ne devait pas se confondre a priori avec les champs et les méthodes de l'urbanisme. Il était question dans mon esprit, en réfléchissant sur les formes de l'urbanité, ni de concevoir, ni de projeter des formes d'organisation ou des manières d'organisation de l'espace, des relations ou des communications, ni même de faire une étude historique ces rapports entre ce genre de conception et la réalité des choses. Mon intention, c'était plutôt de réfléchir aux conditions, je vais dire, d'instanciation de tout ça, dans la pensée et dans l'expérience. Dans l'idéal, j'aurais aimé produire ou pouvoir produire une archéologie de l'urbanité au sens que Giorgio Agamben, archéologie au sens que Giorgio Agamben a dégagé par exemple des écrits de Michel Foucault et a pratiqué lui-même sur d'autres sujets, en particulier l'économie et le droit, l'archéologie de l'économie et du droit. Alors, faire une telle archéologie pour l'urbanité, cela, je ne suis pas allé jusque-là, non seulement parce que ce genre de tâche probablement dépasse mes forces, mais aussi parce que le champ lui-même, l'urbanité, n'a jamais été phrasé comme, par exemple, l'ont été les champs du droit et de l'économie. On peut faire une archéologie de l'économie, comme a fait George Agamben, parce que le mot est entré assez tôt dans l'histoire, dans une série de phrases qui, dans une certaine mesure, en ont fixé, sinon le sens, les possibilités de variation de sens. Prendre un mot comme urbanité, dont on entend bien qu'il fait sens, mais dont on ne sait pas exactement à quoi il renvoie, prendre ce mot-là, avoir le désir, comme c'était le mien, d'en faire une archéologie, en réalité, c'était se demander quelque chose d'impossible, parce que l'urbanité n'a jamais été phrasée de telle sorte, de façon relativement stable, de telle sorte que, justement, ça puisse donner lieu à une archéologie, au sens que je viens de rappeler. Je peux dire ça autrement. Je peux dire que le mot urbanité est, d'une certaine manière, un mot sans histoire, très différent en cela du mot économie que je viens d'évoquer, ou encore du mot de politique. Ce mot-là, ce dernier mot, celui de politique, pour sa part, très tôt dans la philosophie, chez Platon et chez Aristote, a désigné une façon de faire face à l'économie, d'une part, et d'autre part, a désigné une sorte d'espace à la fois mental et géographique, celui de la police, stricto sensu, de la cité, hein, l'espace public, si vous voulez, dégagé d'ailleurs à cette fin. Hein, c'est-à-dire que les Grecs avaient un modèle urbain, je sais qu'urbain n'est pas un mot grec, mais enfin, avaient un modèle urbain qui consistait, qu'on retrouve très, très souvent dans le vocabulaire. Anna Arendt, par exemple, a proposé cette traduction, espace privé, espace public. L'espace privé, c'est celui de l'oikos, hein, où les hommes se livrent aux tâches qui sont les leurs en matière d'organisation de l'oikos, hein, qui va donner le mot économie. Et puis, d'autre part, faisant face à ça, c'est-à-dire s'occupant d'autre chose, faisant des phrases à d'autres sujets, les humains font de la politique, se rendent dans un espace politique et s'adressent des phrases d'une autre nature que celles qu'ils s'adressent quand ils sont dans des relations d'ordre économique ou dans des espaces privés. Donc très tôt, ces concepts ont été construits. En tout cas, nous les devons très explicitement aux Grecs de l'Antiquité. Mais si on regarde par-delà les traductions oublieuses ou négligentes, si on regarde de près les textes, je pense très précisément à la poétique d'Aristote, hein, qui est, on pourrait dire, la première théorie ou justification de l'art dans la ville que nous connaissions historiquement. Si on regarde Aristote très précisément dans le texte, mais ce que je vais dire vaut aussi pour la langue de Platon, on s'apercevra que circule dans ces textes un vocabulaire plus riche et plus nuancé qui devrait en principe interdire, dès cette époque, de réduire les phénomènes urbains ou le vivre ensemble des humains à cette fameuse opposition oikos-polis, économie-politique. Urbanité pouvait, à mon avis, ou peut, à mon avis, justement désigner, au moins dans un premier temps, cette complexité oubliée, ce champ de mœurs, échappant d'une certaine manière à l'instanciation de la cité ou de la politique proprement dite, ou alors constituant le fond sur lequel cette instanciation, la politique, l'idée de politique, peut se dessiner, désignant le fond à partir duquel les grandes oppositions structurantes, économie d'un côté, politique de l'autre, peuvent exister pour nous. Il y a quelque chose d'un autre ordre complexe, et qui peut-être ne se phrase pas clairement, qui n'a jamais été conceptualisé, qui peut d'ailleurs peut-être pas l'être, hein, mais à partir de quoi les instances avec lesquelles nous pensons notre présence dans le monde sont, elles, énonçables et discutables. La question était de savoir s'il pouvait exister, dans le séminaire que j'avais mis en place, il pouvait exister pour ce champ-là, disons, l'urbanité, quelque chose comme des formes, et ce que pouvait bien, en la circonstance, signifier un pareil vocabulaire, ou désigner un pareil vocabulaire, des formes de l'urbanité. Mon hypothèse, empruntée, hardiment je l'avoue, en tout cas je l'avoue aux philosophes parmi nous, mon hypothèse empruntée au lexique de Kant, au lexique kantien, hein, celui de forme chez Kant, je ne vais pas développer bien sûr, rassurez-vous, mais chez Kant, nous devons à Kant une expression intéressante qui est celle de forme de la sensibilité, dont Kant dit c'est l'espace et le temps. Hein, c'est-à-dire que nous ne pouvons penser, catégoriser quoi que ce soit, exercer l'entendement qu'à partir de données de la sensibilité, qui sont données dans les formes de l'espace et du temps. Hein. Donc j'empruntais à ce vocabulaire de Kant pour me demander s'il existait donc quelque chose comme des formes de sensibilité, mais qui appartiendraient non pas au sujet, mais à l'urbanité, quelque chose de ce type-là. Je pensais au fond la politique et l'économie comme des catégories qui permettent de classer ou de phraser de manière distincte des données qui sont par ailleurs formées et recueillies sensiblement au dehors de l'instance ou des instances en question, politique et économie. Et c'est le statut formel de ces expériences que je souhaitais, dans ce groupe de séminaires, mettre à l'étude. Espace et temps sont donc des formes de sensibilité, comme dit Kant, j'allais dire en substance, non, il le dit explicitement. Mais quelle spatialité et quelle temporalité? Mon hypothèse de travail impliquait l'idée que ces réalités formelles ne sont pas sans histoire. Autrement dit, qu'il n'y a pas, parler de l'espace et du temps, en mettant les catégories, enfin les notions, pardon, au singulier, l'espace, le temps, c'est manquer quelque chose dans justement ce qui est arrivé aux humains que nous sommes. Et au fond, ma thèse, je peux dire très très rapidement, c'est que depuis le cinéma, nous nous montrons à nous-mêmes que nous sommes ces êtres capables de, comment dire, je vais presque oser dire pour la discussion, une double sensibilité. Une sensibilité qui serait la sensibilité des humains de toujours, une sensibilité qui s'incarne dans un corps, qui est formé par l'espace et le temps, au sens de Kant que je viens de rappeler, et une autre sensibilité qui est une donne des appareils, une donne de la caméra, une donne des microphones, etc., une espèce de sensibilité mécanique, mais pour moi c'est pas un bon mot, c'est pas un mot dévaluant, quoi, et qui, comment dire, met en place pour nous, et nous permettent de penser selon des formes de sensibilité qui sont pas nos formes phénoménologiques ou physiques, comment dire, habituelles ou historiques. Le cinéma forme de la sensibilité. Je voudrais montrer après, évidemment, très rapidement en quoi ça concerne le cinéma d'Antonioni. Autrement dit, la question, c'est pas seulement que depuis le cinéma, nous nous représentons plus nos mœurs comme auparavant. Hein, je discute la notion de représentation. Hein, la question, c'est pas que le cinéma représente la ville ou l'urbanité, etc., c'est qu'il la forme. C'est qu'il forme la possibilité pour nous d'y être sensible. Je ne dis pas de la comprendre, hein, d'y être sensible. Dans le cas d'Antonioni et de quelques autres, il est vrai assez rare, il y a lieu de dire que non seulement le cinéma constitue et remarque des formes de la sensibilité, mais en outre, il est capable de les problématiser, de les rendre problématiques et par conséquent de les mener à la pensée. Que les films d'Antonioni regardent et prennent le temps de regarder et de faire voir l'urbanisme contemporain dans ses différents registres, hein, il y a filmage d'espaces privés, d'espaces sociaux, de milieux industriels, de lieux de finances, de situations techniques, le cas échéant artistiques, un goût pour le filmage des objets qui est incroyable, des objets techniques, des objets de nos jours. Autrement dit, qu'il y ait dans le cinéma Antonioni de quoi regarder. Je dis bien l'urbanisme contemporain, ça me semble une évidence. Mais je voudrais dire qu'il ne s'agit pas seulement de cela. Les films d'Antonioni forment un espace spécifique, non pas un espace de regard au sens le plus habituel du terme, mais un espace de perceptibilité. Dans Le désert rouge, par exemple, Antonioni raccorde un plan à un autre. Je vais pas montrer ceux d'entre vous qui sont intéressés. J'emprunte une partie de l'analyse que je vais faire, même si moi je vais la formuler autrement, quelque chose que vous pouvez trouver dans le bonus du DVD, dans un des bonus du DVD qui diffuse le film donc dans la diffusion française. C'est une analyse que j'emprunte à Clotilde Simon. Qui fait voir dans tel passage du désert rouge, si vous voulez, que le cinéaste raccorde un plan à un autre, c'est-à-dire qu'il fait tout simplement jouer deux vues caméra l'une derrière l'autre, mais sans donner d'indice concernant la relation diégétique ou narrative des plans en question. C'est-à-dire que vous pouvez aussi bien penser que le second plan est dans la continuité diégétique du premier, hein, narrative, donc que c'est le même espace qui est filmé, et vous pouvez également penser qu'il s'agit de deux, en fait qu'il y a une coupure en quelque sorte et qu'on n'est plus dans le même espace scénique au second plan qu'au premier. Donc dans un premier temps, on peut voir ces deux espaces, ces deux plans comme distants spatialement. Il faut un troisième plan pour que vienne s'établir la continuité diégétique, narrative, et qu'on puisse repérer l'espace plus global d'un intérieur, de l'intérieur comme unique. C'est-à-dire comme unique pour un regard qui n'est pas un regard cinématographique, qui est le regard de quiconque parmi nous, incarné dans, évidemment, son corps. Et avec le troisième plan, on voit que les trois personnages qu'on venait de voir séparément, ou séparés plutôt, se trouvent en fait ensemble dans la même pièce. Dans la même pièce, d'un point de vue, je répète, diégétique. Mais ce n'est pas la même du point de vue du film tel qu'il a été monté. Le troisième plan implique, par conséquent, une forme de réceptivité de second temps. Je ne sais pas si je suis clair. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je veux dire, c'est que dans des moments comme ça, ça peut être de petits moments, de tels films, il y en a d'autres, hein, mais je m'arrête sur celui-là, le film d'Antonioni, en réalité, vous voyez deux fois le film. Ou plutôt, quand vous arrivez au troisième plan, vous êtes obligé de revoir le premier, mentalement. Et par conséquent, il y a deux temps de vision. Il y a deux temps de réceptivité du film. Je crois qu'Antonioni fait ça plusieurs fois dans son cinéma. La vue de second temps, si vous voulez, fait revoir comme lié ce qu'on avait appréhendé d'abord, potentiellement comme délié, comme séparé. La vue de second plan travaille la rétention temporelle de l'expérience du film. Je dis le mot rétention. Pour les spécialistes de philosophie, c'est-à-dire qu'en lâchant ce genre de phrase, je me donne les moyens de discuter contre, si j'ose dire, la phénoménologie. Et en fait, pour les aspects un tout petit peu discussion que j'aimerais mener, ce type d'analyse me donne la possibilité de discuter, par exemple, avec la théorie du cinéma telle qu'elle a été formulée par Bernard Stiegler dans, l'un des ouvrages qu'il a intitulé « Le temps du cinéma ». Où il essaye de montrer qu'il y a une perception phénoménologique du film, où joue ce qui est la base de l'analyse de Husserl dans la perception du temps, les rétentions et les protentions. Là, je viens de faire un petit travail d'analyse qui consiste à dire il n'y a jamais, en tout cas dans le cas de films comme ceux d'Antonioni, il n'y a pas de rétention simple des passages antérieurs du film. Ils sont retravaillés par les plans suivants. Ils sont remis en question la façon la plus simple que j'ai de dire ça, c'est de dire nous revoyons à un certain moment le film, le troisième plan nous fait revoir et placer autrement un plan qui est passé auparavant. On peut voir de cette manière chez Antonioni, dans certains films de Godard, je pense au début de Masculin Féminin par exemple, il y a un travail avec le cinéma qui est un petit peu de même type. On peut dire qu'il y a une manière limite de faire champ contre champ. Cette manière n'est pas, par ailleurs, sans enjeu sur le plan de la narration ou de la diégèse. Par exemple, dans le cas que je viens de citer, il y a un effet de ces plans, je dirais, quasi psychologiques pour qui regarde le film. Ça donne à penser que les personnages, deux d'un côté dans un plan et le troisième seul dans le second plan, sont en état de distension relationnelle, si j'ose dire, puisqu'ils ne sont plus dans le même espace, alors qu'ils sont dans le même espace diégétiquement. Hein, vous voyez ? Et donc là, c'est un effet, parce que ça nous permet de les voir de voir qu'une alliance, et c'est en réalité le cas, une alliance entre deux personnages qui sont séparés dans les deux plans est en train de se défaire ou de se distendre, pour le moins, alors qu'une autre est en train de se nouer. Ce genre de travail des plans n'est pas sans effet sur le suivi diégétique par le spectateur du film, certes. Hein, mais ce que le film fait aussi, et c'est ça qui m'intéresse particulièrement, c'est de former un espace parcellisé, pas tout à fait synthétique, échappant en tout cas à la spatialité de l'époque de la perspective. Ça ne fait pas de tableau. Ça ne peut pas faire tableau. Un tel espace, une telle spatialité n'existerait pas sans l'opération du cinéma, sans cette opération, sans ce genre d'opération que seul le cinéma peut mener à bien. Le cinéma porte à la visibilité une expérience spécifique, l'expérience découpée, fragmentée, tranchée de l'appareil d'enregistrement. En ce sens, le cinéma fait œuvre architecturale. Une autre sorte de mise en œuvre de la puissance formelle du cinéma se trouve dans la pratique, par exemple, de colorisation des espaces adopté pour réaliser le même film, Le désert rouge. Cette pratique de colorisation des espaces, Antonioni la décrivait dans un entretien télévisé avec Pierre-André Bouton comme résultant du désir, non pas, c'est moi qui dis pour le moment, non pas de faire apparaître comme si la chose existait déjà, mais bien de faire paraître, de donner parution, cette fois je cite, au rythme de la couleur dans le monde industriel. Le rythme de la couleur, faire paraître le rythme de la couleur dans le monde industriel. Et la tâche du cinéma, la tâche du film, c'est ça. C'est pas de raconter une histoire, c'est de mener à bien cette tâche, de faire paraître. Je dis bien faire paraître, ça veut dire que seul le cinéma peut faire ça. Et ce que j'entends dans ce propos d'Antonioni, c'est que le rythme en question, le rythme de la couleur dans le monde industriel, fait d'associations dans les conditions d'enregistrement de luminosité et de couleur, qui sont ceux que peut faire une caméra, seul le cinéma donc peut le réaliser. Antonioni précise clairement et explicitement dans l'entretien que je suis en train de mentionner qu'il ne s'agit pas là d'une pratique accessible à la peinture. Et quand il dit ça, nul mépris dans son esprit pour la peinture, on est bien d'accord. Il veut juste dire qu'il fait avec le film quelque chose que seul le cinéma peut faire. Faire paraître pardon, le rythme de la couleur dans le monde industriel. Le film ici, par conséquent, ne représente pas. Il vise la possibilité rythmique de la couleur à l'époque du cinéma, une sorte de parution propre à cette époque. Il ne représente pas, il constitue une forme de réceptivité spécifique. Alors à quoi pensait au juste Antonioni lorsqu'il parlait de rythme de la couleur ? Je ne peux pas, pour ce qui me concerne, m'empêcher de trouver dans le propos d'Antonioni concernant le caractère pictural, le fait que le cinéma est en train de faire quelque chose que la peinture ne peut pas faire, je ne peux pas m'empêcher d'entendre, moi, là, un écho de plusieurs textes ou suggestions de Moholy Nagy. Je ne sais pas si Antonioni y pensait et même connaissait ou s'intéressait tout particulièrement à Moholy. Mais objectivement, entre cette déclaration et tel ou tel texte de Moholy, il y a matière à faire une espèce d'étude comparée. En tout cas, je ne peux pas m'empêcher, et cette fois j'ai des arguments plus objectifs, d'entendre dans le choix du mot, le rythme de la couleur, une quasi-citation de Frank Lloyd Wright, assignant à l'architecture et au design la tâche d'établir, je cite Wright deux fois, dans deux textes séparés, le rythme de la forme. Et en plus, quand Antonioni dit ça dans l'interview, il a un petit sourire qui me donne à penser qu'il a une arrière-pensée. Est-ce que c'est ça ? Je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'on peut, nous autres, de l'extérieur, étudier si c'est une hypothèse intéressante de rapprocher ce que dit Wright du rythme de la forme pour l'architecture et le design et ce que dit, à propos du désert rouge, Antonioni, en évoquant cette expression, le rythme de la couleur dû au cinéma. Qu'Antonioni connaisse Wright, cela ne se discute pas. Les dernières séquences de Zabriskie Point l'établissent évidemment tout à fait clairement, puisque la maison dans laquelle se passent ces dernières séquences est une maison de Wright. Il est vrai qu'il fait finalement exploser cette maison, mais je ne vois pas pour autant en quoi pareille explosion, dont l'interprétation est d'ailleurs au fond malaisée, interdirait d'appréhender Antonioni comme un connaisseur de l'œuvre de Wright et d'examiner son travail sur cette base. Et c'est donc ce que je propose de faire rapidement. On sait peut-être, vous savez peut-être, que Frank Lloyd Wright a été l'employé d'abord, le disciple ensuite de Louis Sullivan. Mais vous ne savez peut-être pas, on sait moins d'ailleurs d'une manière générale, que Wright a plusieurs fois dans ses textes rectifié la formule célèbre de son maître Sullivan, Form ever follows function. Et il a proposé, lui, Wright, de définir l'architecture comme ce qui travaille et le registre formel et le registre fonctionnel. C'est-à-dire, il disait la forme et la fonction, les deux. Il y a architecture à partir du moment où il y a travail formel et travail fonctionnel. Les deux ne se lâchant pas. Je peux citer Frank Lloyd Wright, le slogan de son maître, dit-il, de Sullivan, n'a de sens que si l'on dit et écrit que forme et fonction ne font qu'un. Donc il faut chercher, enfin bon, il faut préciser pour bien comprendre cette citation dans le contexte global de la pensée de Wright, que je ne vais évidemment pas expliquer complètement, développer complètement ici, forme et fonction ne font qu'un dès lors qu'il y a architecture et design. Forme et fonction ne font qu'un là où il y a de l'architecture, autrement non. Autrement dit, on peut très bien imaginer qu'il y a des espaces urbains dans lesquels il y ait des fonctions, des fonctionnements, si vous voulez, des fonctionnalités, disons des fonctions, des mises en œuvre de fonctions, sans forme, hein, parce que ces espaces sont insuffisamment architecturés, ne sont pas considérables par nous comme des espaces architecturés ou, si je dis ça en américain, designés. Donc la proposition de Wright implique plus clairement que chez Sullivan qu'il puisse se développer dans le monde des fonctions sans forme qui sont mal, peu ou même pas architecturées, ou plutôt, selon un lexique que je ne vais pas avoir le temps de commenter ici, des fonctions qui sont des fonctions inorganiques. Hein. Alors ça c'est le mot sur lequel, c'est pour ça que je pense à Mauly et à Frank Lloyd Wright, parce que tous les deux, Mauly ayant lu Wright, ça me paraît évident, ou l'ayant entendu, dit des choses assez semblables sur le fait que peuvent, et d'ailleurs c'est souvent comme ça que ça commence, poussent parmi nous de nouvelles fonctions, c'est-à-dire, je pense qu'on peut traduire en disant de nouvelles capacités techniques, mais d'abord sur un mode inorganique. Et précisément, il faut les architecturer, et paradoxalement, ça oblige à penser l'architecture et le design comme un travail de second temps, pas un travail secondaire, surtout pas. Mais un travail de second temps, hein, qui va justement, là où la fonction s'avance sans forme, former la fonction. Lui donner... Je pense que le cinéma fait ça. C'est-à-dire, d'une certaine manière, dans mon esprit, le cinéma, c'est de l'architecture. Mais pas au sens où ça représente l'architecture, hein, au sens où ça forme quelque chose de, qui est de l'ordre d'une capacité à enregistrer le monde autrement qu'autrefois. Ce que, depuis le contexte de référence que je viens d'évoquer, je peux dire des films d'Antonioni, d'un bon nombre de ses films en tout cas, c'est qu'ils rendent manifestes les formes de l'urbanité contemporaine, c'est qu'ils opèrent la manifestation de ces formes. Ce sont des films qui ne sont pas passifs. Ils ne sont pas passifs, ces films, à l'égard des fonctions urbaines modernes. Ils ne sont pas résolus à les laisser s'inscrire passivement sur des surfaces d'inscription, ou seulement à les thématiser. Non, de l'urbanité, ces films organisent et suscitent une conscience formelle, ils fabriquent l'aperçu organique. Autrement dit, sans les opérations elles-mêmes formelles d'un cinéma comme celui d'Antonioni, nous n'aurions pas la présence d'esprit que nous avons à des espaces urbains où pourtant, même sans ces films, nous sommes capables de vivre fonctionnellement. Donc, ça forme une présence d'esprit, je dirais les choses comme ça. Alors, comment expliquer un tel résultat? Comment expliquer que les films d'Antonioni parviennent à faire ça? Je ne doute pas qu'on attende de moi sur cette question des illustrations aussi nombreuses que possible. Je ne suis pas sûr que j'en aurai le temps, et je suis même sûr que je n'en aurai pas le temps. J'ai tout à l'heure quand même déjà donné un exemple d'une pratique qui ne consiste pas seulement à ouvrir du temps dans le film pour des plans que je dirais de type photographique qui cadrent et qui avec la durée font passer à l'examen telle portion d'espace vide de tout protagoniste d'histoire, mais qui pose la caméra en amorce ou au contraire en fin de plan de telle sorte que le statut diégétique du visible soit un moment, fut-il bref, ce moment suspendu. Je pense qu'on voit ça souvent dans les films d'Antonioni, et d'ailleurs ça rejoint l'argument que vous utilisiez juste avant moi, qui consiste à, bon, pour résumer, en disant 20 minutes de diégèse et 100 minutes de plan que moi j'appellerais de type photographique, au sens, non pas où c'est la même chose que des images photographiques, mais au sens où c'est, le principe est d'ouvrir des appareils d'enregistrement à l'enregistrement de quelque chose qu'on observe. Donc ça, il y a beaucoup d'éléments de cette nature dans les films d'Antonioni, mais le principe le plus général, je crois, du genre d'opération que j'essaye de soutenir par mon propos consiste à mettre en œuvre une double temporalité dans le film, une temporalité formelle et diégétique. La diégèse étant, pour le film, la fonction, si vous voulez. Pourquoi des films? Pour raconter des histoires. Mais ces films, cette manière de raconter des histoires sort de l'inorganique, devient quelque chose d'organique pour nous à partir du moment où il y a en même temps un travail formel qui est fait, qui est soutenu par le cinéaste. Cela peut se dire autrement. Certains plans des films d'Antonioni relèvent de deux points de vue, celui mécanique de la caméra et celui phénoménologique du spectateur. Le second, le point de vue du spectateur phénoménologique, n'a pas besoin de la donnée du premier, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin pour suivre l'histoire de tout ce qui nous est donné par le film, il nous en donne plus. Le regard d'ensemble, par conséquent, n'est jamais parfaitement synthétique. C'est-à-dire qu'en fait, des films comme ceux d'Antonioni nous restent dans la mémoire, même si on rapporte le film à ce qui nous aura, à sa diégèse, à ses éléments narratifs, on aura toujours dans la mémoire le sentiment de laisser de côté beaucoup de choses qu'on a vues et entendues dans le film. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mémoire synthétique de ce type de cinéma. Et c'est ça qui est intéressant, justement. C'est pour ça qu'il y a du travail formel. C'est que nous savons très bien, lorsque nous nous souvenons du film, que notre mémoire est littéralement, et ce n'est pas un mauvais mot dans ma bouche, distraite. C'est-à-dire tirée 10 en deux directions. Quelqu'un qui est distrait, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui est diverti. Ce n'est pas la même chose, la distraction et le divertissement. Moi, je soutiens la distraction, pas le divertissement, à cause de Benjamin. Enfin, je n'ai pas le temps de développer. Mais on pourrait dire le distrait, c'est quelqu'un qui a l'esprit en deux endroits. Ce n'est pas quelqu'un qui manque d'esprit. C'est quelqu'un qui a l'esprit en deux endroits en même temps. C'est la mémoire que nous avons des films d'Antonioni est une mémoire distraite. Parce que précisément, il y a autre chose que de la donnée diégétique dans ces films-là, et bien autre chose. Donc, c'est une mémoire distraite, c'est un esprit distrait qui peut réceptionner ces films, tendu cet esprit entre une polarité qui réclame une retenue examinatrice, qui fait qu'on revient sur le plan qu'on a vu, et une autre qui pousse à l'avancée dramatique. C'est-à-dire, en fait, quand vous regardez un film comme ça, votre esprit travaille dans deux sens. Disons, l'un qui vous pousse à aller vers le plan d'après pour savoir la suite, ça c'est la poussée diégétique, si j'ose dire, et puis une autre façon qui vous fait revoir le film, revenir en arrière, c'est, ah mais je croyais tout à l'heure que c'était un espace distinct, mais en fait, diégétiquement c'est le même espace, alors ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est une vue caméra, bon, vous ne vous dites pas explicitement tout ça, bien sûr, mais ça se passe au niveau de la sensibilité, mais ça se distrait à ce niveau-là. Et je pense que c'est une expérience riche. Plus généralement, je dirais que les films d'Antonioni ne se laissent pas emporter, ni relever dans la mémoire qu'on en a, dans la fonction diégétique du cinéma. Ce sont des agencements ambigus qui se revoient dans le temps même où ils se déroulent. Ce ne sont pas des objets temporels simples. C'est pourquoi je peux dire qu'ils participent formellement de l'élaboration de l'urbanité. J'ajoute que s'il en est ainsi, c'est aussi parce qu'Antonioni choisit volontiers pour élaborer ses intrigues des personnages incapables dans la situation éthique qu'il est défini comme telle. Alors éthique, je sais qu'en grec, ethos veut dire le repère, P-A-I-R-E. C'est-à-dire pour moi, l'éthique, c'est l'être dans son repère. C'est chacun d'entre nous dans ce repère, P-A-I-R-E, c'est-à-dire là où probablement il n'y a pas beaucoup de phrases. Je ne suis pas du tout sûr que l'éthique soit bavarde, en ce qui me concerne. Je suis même sûr du contraire, au fond. Mais la situation éthique des personnages, ça serait ethos chez Aristote dans la poétique. C'est un mot qui existe et qui est généralement traduit par caractère. Donc le caractère des personnages, vous voyez, ce qui les constitue éthiquement, indépendamment des situations dramatiques dans lesquelles ils vont être pris, de l'histoire dans laquelle ils vont être pris, Antonioni choisit volontiers comme caractère, comme situation éthique pour ces personnages, des personnages qui sont incapables, étant donné leur ethos, leur situation intime, leur repère dans lequel où ils peuvent se replier le cas échéant. Ce sont des personnages qui sont incapables, depuis leur situation éthique, de s'engager dans une relation dramatique, dans un drama, dans une action. Le drama grec partir duquel s'est théorisé chez Aristote justement la notion d'intrigue. Ces personnages sont désœuvrés, désaffairés, disoccupati même, on pourrait dire, pour le personnage du cri, c'est même littéralement vrai. Il l'est deux fois en réalité, hein. Disoccupati au sens où il est chômeur, enfin où il ne travaille plus, et puis disoccupati, il est abandonné et il se retrouve dans une situation de solitude dans laquelle il s'aperçoit qu'il ne peut se soutenir dans la vie qu'avec quelqu'un d'autre. Et son désœuvrement, son désaffairement, sa désoccupation va l'emmener dans des situations où il ne s'engagera jamais. Ces personnages sont désœuvrés, donc ils sont disoccupatifs, ils sont dans l'ennui. Il y a magnifique situation de Monica Vitti dans cette situation. Que ce genre d'état, le désaffairement, le désœuvrement, le désengagement, l'ennui, soit l'une des conditions qui fait qu'un vivant, par ailleurs actif, comme nous sommes, de l'espace puisse être donné, que ce vivant puisse en conséquence regarder quelque chose, quoi que ce soit, un ventilateur ou un désert, pour prendre des exemples, cela pourrait se montrer, si vous voulez, philosophiquement. C'est-à-dire que, en fait, je pense là à des analyses d'Agamben qui renvoient à des analyses de Heidegger, lisant un Wexkool, enfin un très beau livre d'Agamben qui s'appelle L'Ouvert, qui n'est évidemment pas un livre sur le cinéma, mais je pense qu'en en prenant ces textes-là, on pourrait montrer, si vous voulez, que la condition de perceptibilité d'un espace qui fait qu'il y a de l'espace, que ce n'est pas seulement un environnement, que ce n'est pas seulement un milieu de vie. Les animaux sont environnés, les végétaux sont environnés, les animaux sont dans des milieux de vie. Mais nous, nous avons affaire à quelque chose, nous autres les humains, de spécifique, qui est l'espace. Et depuis une philosophie, il faut lire ou relire peut-être un certain nombre de textes, on pourrait montrer que ce qui caractérise le rapport, de l'être animal au monde, c'est la possibilité d'être pris par les choses, d'être accaparé sur le mode pulsionnel, enfin si vous voulez, au sens ne pas pouvoir ne pas s'empêcher de faire quelque chose, être pris par les choses. Les personnages de Antonini sont c'est ça que veut dire désœuvrement. Ils sont pas pris par les choses. On peut montrer philosophiquement, mais je vais m'arrêter là parce que sinon je serai trop long, que ce pouvoir ne pas être pris, qui correspond à la situation éthique de nombre de personnages d'Antonini, et du point de vue de la diégèse, du point de vue de la narration, ce qui ouvre le droit au film de montrer de l'espace et de le travailler formellement. Et je trouve ça évidemment extrêmement astucieux. Voilà, donc c'est ce que voulait dire mon titre, je pense, l'urbanité comme ambiance formelle. Je pense qu'il y a ça chez Antonioni, et que ça n'aura pas peu contribué à nous faire voir le monde dans lequel, par ailleurs, nous remplissons un certain nombre de fonctions ou d'afférents.
Merci Pierre Damien pour cette intervention très très dense qui ne manquera sans doute pas de soulever des questions. Je pense qu'on a à peu près 5 petites minutes pour poser des questions. Est-ce qu'il y a des questions peut-être? C'est vrai que moi j'ai peut-être deux choses qui, peut-être pas des questions, mais des choses qui moi m'ont semblé très 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 très, très intéressantes. C'est peut-être que tu peux être un peu le développer. C'est d'une part ce que tu proposes dans ton approche par rapport au type d'approche que l'on a généralement d'Antonioni, c'est une façon d'aborder le cinéma d'Antonioni qui échapperait à une approche phénoménologique. Hein? Et donc, comment tu qualifierais cette façon d'aborder le cinéma d'Antonioni de cette façon? Et puis, deuxième question, enfin, qui est une remarque aussi, quand tu parlais, je pensais à la très très belle définition de Henri Cartier-Bresson, qui parlant du cinéma, disait « le cinéma, c'est le plan d'après ». Et j'aurais presque envie de dire, après t'avoir écouté, le cinéma d'Antonioni, c'est presque le plan d'avant. Et comme si, d'une certaine façon, il renversait, notamment avec ces figures qu'on a appelées ce plan à montage, ce plan à préhension décalée, qui, d'une certaine façon, ce qui est décalé, c'est presque le sens même de la perception. Je lis ces deux questions. Est-ce que le fait d'inverser ce sens de la perception, c'est ce qui nous permet aussi de sortir de ce qui serait une approche phénoménologique?
Je ne sais pas si je comprends bien ta question. Il y aurait une façon abrupte d'y répondre. Alors, évidemment, ce sont des débats théoriques sur lesquels nous sommes à l'instant, mais la façon abrupte de répondre consisterait à dire, au fond, je ne sais pas si j'ose moi-même aller jusque-là, je prends encore des précautions, mais au fond, il n'est pas possible de comprendre le cinéma à partir d'une philosophie de type phénoménologique. Ou plutôt, il n'est pas possible de comprendre ce que fait le cinéma à nos esprits en supposant que nous sommes entièrement, compréhensibles ou descriptibles sur le mode de la phénoménologie. Alors j'ajouterai deux choses là-dessus. La première, même si on l'a cité ce matin, Antonioni est capable de citer Merleau-Ponty, il n'empêche que Merleau-Ponty, à ma connaissance, il n'y a pas de grand texte de Merleau-Ponty sur le cinéma. Et que quand il s'intéresse à la perception, comme pas plus que Heidegger, il n'y pense pas, pas plus que Husserl. En tout cas, il n'y a pas de texte.
Mais en fin de compte, il y a psychologie et cinéma, mais d'une certaine façon, en gros, c'est ce qui définit comme définit le cinéma comme capable de filmer l'être au monde, quoi. C'est dans cette approche-là.
Et c'est un peu comme si le c'est un petit peu comme si, bon, c'est excessif ce que je dis, je sais bien, mais c'est comme si le cinéma ne faisait rien de particulier. Voilà. C'est ça que je veux dire.
C'est la technique.
Comme si, exactement, comme si par conséquent la technique impliquée dans le cinéma ne faisait rien de particulier, rien de... C'est pour ça que j'ai commencé en disant, mais peut-être ce qui est important, c'est pas de montrer comment une poussée technique rentre dans la culture, mais comment elle l'ouvre. Donc c'est... qu'est-ce que le cinéma ouvre pour nous, que la peinture n'ouvre pas? C'est dire ça, ça n'est pas dire la peinture, c'est périmé. C'est dire le cinéma n'est pas voué à faire la même chose. Alors si on admet ce genre d'hypothèse, c'est le deuxième élément de ma réponse, alors il faut imaginer, disons, qu'il y a, alors, comment dire ça en philosophie, un mode de conscience, hein, qui va avec le cinéma et d'une certaine manière avec lui seul. Peut-être je peux dire les choses un tout petit peu autrement. Je pense qu'il faut déplacer le lieu et l'entente de conscience, de ce que conscience veut dire. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est de considérer que la conscience n'est jamais plus vive, peut-être, que dans le moment où elle s'éveille. C'est-à-dire que, en fait, être conscient, c'est prendre conscience de quelque chose. Là, à ce moment-là, la conscience est d'une incroyable, incroyable vivacité, mais elle ne sait pas de quoi elle est consciente. La mise à l'écart de savoir avec lesquels on fonctionne bien, ça c'est une prise de conscience. Quand on prend conscience, ça veut dire tout ce que je savais jusqu'à présent n'est pas opérationnel. Tout ce qui me permettait de fonctionner ne fonctionne pas. Dans le cinéma d'Antonioni, je vois des éveils de conscience à certains moments qui ne peuvent se traduire que par « Ah, je vois ça ». Je vois ça, je vois ce plan, et c'est tout. Je ne sais pas si j'ai tout à fait.
Écoutez, donc je remercie encore une fois Père Damien pour sa... son intervention qui était vraiment très stimulante et qui ouvre beaucoup d'horizons de réflexion.
Alors je vous propose maintenant, mais qu'il n'y ait pas de malentendu sur ce que je veux dire, de prendre l'air.